Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. C'est enfin le début d'une semaine sur Voltaire dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine comme un festival de science, de philosophie, de colère et de bonne humeur autour de l'œuvre et de la vie, car au fond c'est la même chose, de l'historien, dramaturge, pamphlétaire, philosophe, écrivain, épistolier, François-Marie Arouet, mieux connu mais aussi méconnu donc, sous le nom de Voltaire. Nous vous parlerons de son dictionnaire philosophique, de ses contes, les contes orientaux bien sûr, mais pas seulement, de son œuvre théâtrale, en particulier le dissensuel, le fanatisme ou Mahomet. Nous parlerons de sa correspondance, mais aussi et d'abord de sa vie, tout simplement, du parcours hors du commun d'un écrivain tardif, le dernier intellectuel heureux, disait Roland Barthes, et qui, pour le meilleur, eut le bon goût de vivre jeune tout en mourant vieux. Une semaine en compagnie exclusive de son biographe Raymond Trousson, que nos auditeurs ont eu le plaisir d'entendre à deux reprises déjà cette année, sur l'histoire de l'utopie et sur Jean-Jacques Rousseau. Raymond Trousson qui signe chez Talendier une remarquable biographie de Voltaire.
Dans la première émission que j'avais consacrée à Voltaire, je vous avais déclaré que je trouvais quatre causes à cette aptitude qu'il avait de se faire exécrer. L'une d'elles était son esprit pénétrant, redoutable d'ailleurs, et bien souvent pervers, mais l'un des plus éblouissants qu'on ait jamais connu. Eh bien, passons-lui la parole, et vous allez penser qu'il se montre à nos yeux sous un jour effrayant quand il écrit à D'Alembert cette lettre inouïe au sujet d'un livre nouveau dont il était l'auteur et qui faisait scandale. Il lui écrit « Dès qu'il y aura le moindre danger, je vous demande en grâce de m'avertir afin que je désavoue l'ouvrage dans toutes les feuilles publiques avec ma candeur et mon innocence ordinaire. J'imagine qu'un tel aveu vous scandalise. Cet écrivain qui se propose de désavouer son œuvre, est-ce que ce n'est pas abominable? Vous devez penser que si. Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas d'accord. Car en somme, qui l'obligeait à faire cet aveu? Personne. Ce n'est donc là qu'un mot d'esprit, une nouvelle affirmation de son cynisme volontaire.
Bonjour Raymond Trousson.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Nous sommes à l'orée donc d'une longue semaine sur Voltaire, longue ou trop brève probablement d'ailleurs, une semaine autour de Voltaire. Et on va commencer chacune des émissions qui seront consacrées à Voltaire par la parole de Sacha Guitry, qui savait ce qu'il en était de l'esprit libre et de l'ironie, et qui, à ce titre, se vivait lui-même, en un sens, comme voltairien. Alors on peut considérer, d'ailleurs, on le disait hors micro, que Guitry était peut-être moins soucieux que Voltaire de l'universel humain, de l'humanité comme genre, mais peu importe, ici, il lui reconnaît la pénétration de son esprit, le talent éventuel de désavouer son œuvre, un certain sens de la prudence, et surtout, dit-il, un cynisme volontaire. Est-ce que vous adhérez à cette expression, en ce qui concerne Voltaire ?
Oui, les expressions de cynisme chez Voltaire peuvent être de temps en temps sincères. Elles sont souvent aussi une forme de l'ironie. Quant au fait que Voltaire désavoue certaines de ses œuvres, et Dieu sait s'il l'a fait souvent, même auprès de gens qui étaient parfaitement bien informés, mais c'est tout simplement pour des raisons stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne peut poursuivre un auteur que s'il signe son œuvre. S'il la désavoue, si l'œuvre est anonyme, qui peut-on poursuivre ?
Donc les exemples sont nombreux d'ailleurs de Voltaire qui ne reconnaît pas avoir écrit l'œuvre en question.
Bien sûr. Il désavoue d'ailleurs la plus grande partie, philosophique en tout cas, de son œuvre parce qu'elle est dangereuse. Et la tactique de Voltaire est aussi que la lutte pour la liberté, pour la tolérance, pour les Lumières, demande des combattants et pas des martyrs. Il est exactement l'opposé de Rousseau qui, lui, écrit quelque part « J'envie la gloire des martyrs ». Il l'a eu, d'ailleurs, puisqu'il est le seul grand écrivain du XVIIIe à signer toutes ses œuvres, ce qui apparaît d'ailleurs au pouvoir comme une provocation. Et Voltaire joue simplement cette stratégie qui consiste à prétendre ne pas être l'auteur, alors que tout le monde sait très bien, naturellement, qu'il en est l'auteur.
C'est le paradoxe, Raymond Trousson, parce que, à la fois, il faut des combattants et pas des martyrs. Voltaire n'avait aucune envie d'être torturé, d'être brûlé, d'être incriminé en permanence. Néanmoins, il voulait quand même qu'on sache qu'il en était l'auteur. Les exemples abondent de Voltaire se vantant en privé, et donc faisant savoir, sous le manteau, mais en même temps suffisamment fort pour que personne ne l'ignore, qu'il était l'auteur des œuvres qu'officiellement il ne signait pas.
Oui, bien sûr, mais on trouvera aussi des lettres, par exemple, qu'il écrit à des familiers qui sont parfaitement informés. Vous savez très bien que je ne suis pas du tout l'auteur de tel ou tel ouvrage qu'on m'attribue, mais ça se comprend. Ce sont aussi des lettres dont il savait très bien que, souvent, elles seraient communiquées, lues dans les salons. Donc, même à des intimes bien informés, il jouait cette comédie nécessaire.
Alors, vous parlez d'une comédie nécessaire. Est-ce que vous diriez que la vie de Voltaire, puisque c'est elle que l'on va parcourir pendant ces 50 premières minutes, est-ce que vous diriez de la vie de Voltaire qu'elle relève de la comédie ?
C'est en effet une immense comédie où Voltaire, somme toute, se joue de tout, avec un esprit qui n'est jamais pris en défaut, avec une prudence et une ruse de renard, qui va parfois de pair d'ailleurs avec certaines imprudences qui faisaient frémir Madame du Châtelet, parce qu'il risque parfois de laisser filer des œuvres qui ne devraient évidemment pas être connues, il risque de lui attirer des ennuis. C'est une perpétuelle comédie d'un homme qui domine son siècle d'un bout à l'autre et qui à la fois est éblouissant et détesté par le parti adverse.
Détesté mais reconnu, admiré constamment par ceux qui le détestent, vous diriez cela ou pas ?
Cela peut arriver.
Reconnu finalement comme le meilleur ennemi de l'orthodoxie, par l'orthodoxie elle-même ?
Non. Non, en réalité, l'orthodoxie, ou certains journalistes comme Fréron ou Les Fontaines, qui ont d'ailleurs aussi des motifs de caractère personnel, s'attachent aussi à dénigrer l'écrivain et le philosophe, à attaquer l'œuvre, ce qui est évidemment de bonne guerre dans cette lutte perpétuelle entre les deux parties. Mais très souvent, il arrive aussi que l'on admire profondément chez Voltaire l'écrivain et que l'on méprise l'homme. C'est ce que dit Frédéric II, c'est aussi ce que dit Rousseau. Rousseau n'a jamais marchandé son admiration à Voltaire, mais il disait « mépriser l'homme ». Et lorsqu'en 1770, les philosophes s'associent par souscription pour élever une statue à Voltaire vivant, ce qui est absolument extraordinaire, bien entendu.
C'est comme entrer dans la Pléiade de son vivant.
Exactement.
Ça arrive rarement, allez-y. Oui.
Exactement. Rousseau insiste, à la grande rage de Voltaire d'ailleurs, pour apporter ses deux louis à la souscription.
Oui, de ce point de vue, c'était un juste retour de bâton, puisque Voltaire lui-même, après avoir désavoué son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, ne cessait de lui expliquer qu'il se battrait pour que ce discours puisse exister.
Mais c'est-à-dire que c'est en effet un propos qu'on a prêté à Voltaire, qui exigeait cette tolérance et cette liberté d'esprit. Mais il ne faut pas non plus se leurrer exagérément sur certaines déclarations de Voltaire. Cette tolérance, il l'exigeait bien sûr pour lui-même. Tout le monde sait qu'il fut à l'égard de ses adversaires d'une férocité sanglante, à l'égard de Fréron, à l'égard de Desfontaines, à l'égard de ce pauvre Rousseau qu'il a poursuivi pendant des années. Donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Voltaire est un caractère nerveux, emporté, profondément rancunier, capable de vengeances véritablement atroces, qui sont d'ailleurs dans les mœurs littéraires et journalistiques du temps.
Alors, vous parlez de la férocité de Voltaire et Montrousson. On va entendre d'ailleurs quelques exemples de cette férocité. C'est de nouveau Sacha Guitry qui prend plaisir à les citer, en particulier Fréron et les quatre vers fameux qui l'ont immortalisé. Écoutons justement ce que Voltaire pouvait dire de certains de ses adversaires.
Les mots de lui qui sont méchants sont fort célèbres. Voici le plus connu de tous. Existait à l'époque un critique nommé Fréron, dont le prénom était Élie, mais que Voltaire appelait Jean, parce que Jean Fréron donnait comme initiale J.F., c'est-à-dire Jean Foutre. Or, Fréron, ayant commis l'imprudence de s'attaquer à Voltaire, celui-ci l'immortalisa, car effectivement, qui se souviendrait du critique Fréron si Voltaire n'avait écrit sur lui ses quatre vers ? L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent mordit Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva.
Raymond Trousson est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, l'invité unique des Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans le cadre de cette semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à Voltaire. Alors voilà, Jean Fréron, donc, habillé pour l'éternité.
Hein.
Jean Fréron, d'ailleurs baptisé Jean par Voltaire, parce que ça donnait Jean Foutre.
Exactement, lui, il s'appelait en réalité Élie Catherine. Il est vrai aussi que l'érudition moderne a quand même un petit peu remis les choses au point. Fréron, en effet, avait attaqué Voltaire, parfois assez férocement, ce que Voltaire supportait fort mal, et il l'a traité, comme la plupart de ses ennemis, avec cette ironie mordante, féroce, qui liquide évidemment une réputation, définitivement, comme il le fera avec Desfontaine ou Lefranc de Pompignan. Maintenant, il faut se rappeler tout de même que Fréron n'est pas du tout un imbécile. Il est le représentant de l'opinion adverse, mais c'est un excellent journaliste, c'est un bon critique littéraire, et peut-être Voltaire ne s'emporte-t-il à tel point contre lui que, parfois au moins, dans la mesure où il sent qu'il touche juste. On a essayé de réhabiliter Fréron dans ce sens, il y a eu des travaux là-dessus, et en effet, il faut quand même remettre Fréron à sa place. Il n'est pas du parti vainqueur, et par conséquent, il est oublié, il est, comme beaucoup d'autres, dans le sillage de Voltaire.
Dans le sillage de Voltaire, c'est-à-dire qu'il y a une tonalité commune, finalement. Peut-être Voltaire redoutait-il davantage ceux qui avaient de l'esprit que ceux qui n'en avaient pas.
Oui, bien sûr. Et Fréron ne manquait pas d'esprit, d'ailleurs. Sa réaction au moment de la comédie de l'Écossaise, dont il rend lui-même compte, alors qu'il est évidemment fort maltraité, montre que ce n'était pas le premier venu.
De sorte que l'affrontement entre Voltaire et Fréron n'est pas à comprendre aujourd'hui sur le modèle de l'affrontement qui oppose, par exemple, un auteur à des journalistes qui s'endorment sur la facilité d'une critique. Ça n'est pas que cela. Fréron n'est pas seulement le paradigme du journaliste qui se contente de dire du mal parce qu'il est plus commode de le faire.
Non, il y a en effet des critiques de Fréron lorsqu'on les lit aujourd'hui, par exemple, mettons à propos des tragédies de Voltaire. Des critiques qui sont fort justes.
Ou Rodegune également.
Oui, par exemple. Ben, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a pas mal d'autres exemples. Et Fréron, souvent, frappe juste et, bien sûr, aussi frappe fort. Et Voltaire est extrêmement chatouilleux dès qu'on égratigne sa réputation. Lorsqu'on s'en prend, par exemple, à une érudition qu'on dégonfle en disant qu'elle est factice, qu'elle est bourrée d'erreurs, etc., il réagit très violemment et déconsidère des adversaires qui ne manquait pas toujours de certaines qualités.
Alors revenons en arrière, en amont, à l'origine, au départ, et je voudrais vous poser des questions qui sont des questions banales, ordinaires, mais pas tant que ça, en ce qui concerne Voltaire, et les auditeurs vont comprendre. D'abord, qui était le père de Voltaire? Où est-il né? Quand est-il né? Et à quoi doit-il son pseudonyme?
Si on remonte dans le passé, les ancêtres de Voltaire étaient originaires du Poitou. Certains d'entre eux, à l'origine, ont travaillé dans la tannerie. Puis se sont assez vite orientés vers le commerce des draps. Le père de Voltaire, lui, était notaire et comptait parmi ses clients un certain nombre de grands personnages, comme par exemple la duchesse de Saint-Simon, la mère du mémorialiste. Quant à Voltaire, lui, il naît, et c'est là que commence la première interrogation, sur son acte de baptême en tout cas, il est indiqué que François-Marie Arouet est né la veille du 22 novembre 1694, jour du baptême. Le problème, c'est que l'intéressé, à plusieurs reprises, bien entendu, a contesté cette date en disant qu'il était né, en réalité, le 20 février 1694, se vieillissant ainsi, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de 9 mois. D'où la première question qu'on peut se poser à propos du baptême, le curé qui a baptisé l'enfant. Il n'était quand même pas myope au point de confondre un enfant qui avait 2 jours et un enfant qui avait 9 mois. Est-ce qu'il y a eu complicité, falsification?
Ou est-ce que Voltaire s'est donné pour date de naissance le jour de sa conception?
C'est en effet une idée qui pourrait se défendre. Il aurait pris la mode qui avait cours, paraît-il, chez les Chinois. Deuxième question qui se pose, beaucoup moins, mais enfin elle se pose tout de même. Où est-il né? Bah, en principe à Paris, où demeurait son père. Mais dans la vie de Voltaire de Condorcet, en 1789, Condorcet le dînait à Châtenay, là où en effet son père aura une propriété. Et enfin, troisième question, de qui est-il le fils?
Et voilà.
En principe toujours, bien sûr, il est le fils de son père, le notaire Arouet.
Le notaire.
Seulement, lui-même, à plusieurs reprises, et devant témoin, a assuré qu'il n'était nullement le fils du notaire Arouet, mais d'un certain Rochebrune ou Roquebrune, dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il était un chansonnier, un petit poète, un homme qui avait fait aussi une cantate d'Orphée qui était mise en musique par Clérambeau, et dont le père Voltaire était d'ailleurs aussi le notaire et s'était occupé de la liquidation de sa succession. Ce qu'il disait pour défendre cette théorie, car certains, dont ses nièces d'ailleurs, lui reprochaient cet outrage à sa mère, puisqu'elle aurait été infidèle au père, c'est qu'il préférait être le bâtard d'un homme d'esprit plutôt que le fils d'un bourgeois sans esprit.
On retrouve cette idée chez Stendhal.
On la retrouve également, en effet, chez Stendhal. Mais ce qui est clair, c'est que Voltaire, au fond, s'invente, est-ce vrai ou faux, s'invente un père comme il s'inventera un nom. C'est une façon, évidemment, radicale de rompre avec ses origines et avec un père pour lequel, semble-t-il, il n'avait guère d'estime. Aux yeux de Voltaire, manifestement, le père Marouet est un bourgeois aux idées étroites qui ne voit qu'une carrière banale dans le barreau ou la magistrature alors que lui veut être littérateur dès sa jeunesse. C'est ce qui explique, en partie sans doute aussi, le fait qu'il se choisisse dès son premier grand succès en 1718, il se choisit le pseudonyme de Voltaire. Alors d'où vient le nom de Voltaire ? Ben, en somme, on ne le sait pas plus que pour Molière, qui après tout s'appelait Poquelin. On a émis différentes hypothèses. On a dit que c'était, par exemple, l'anagramme d'une petite ville, Hervaux, Voltaire. On a dit aussi que c'était une espèce de contraction de volontaire, parce que quand il était petit, on l'appelait assez souvent, à cause de son caractère, petit volontaire. Et de volontaire, on aurait tiré Voltaire. Le plus vraisemblable, finalement, c'est sans doute la contraction de Arouet le Jeune. Le jeune, ce qui le distinguait évidemment de son frère aîné, Armand. Et de ce Arouet le Jeune, il aurait tiré Voltaire. En tout cas, il signe Arouet de Voltaire à partir de 1718. Il le fait pendant quelques mois. Et très vite, ça devient Voltaire tout court.
Monsieur de Voltaire, monsieur Arouet, comment vous appelez-vous ? L'autre lui répondit on ne sait trop quoi sur le nom de Rohan Chabot. Deux jours après, à la Comédie Française, répétition de la scène et répétition de la verte réplique. Cette fois, le chevalier lève sa canne, Voltaire tire son épée. C'est la première querelle fameuse de Voltaire, qui lui vaudra d'ailleurs d'être bastonné par les laquais du chevalier de Rohan.
Voilà. Mais justement, il semblerait que cette querelle, qui est devenue légendaire évidemment, naisse de ce problème du nom. Le chevalier de Rohan, qui provient d'une des plus grandes familles de France, ayant dit avec dédain à Voltaire, « Oui, mais enfin, vous, c'est Arouet ou c'est Voltaire ? On ne sait pas très bien comment vous appelez. » Et Voltaire aurait sans doute répondu quelque chose du genre, « Oui, ben enfin, c'est Rohan ou c'est Chabot ? On ne sait pas très bien comment vous appelez non plus. » Ce qui fait que...
On lui prête une autre réplique d'ailleurs. Rohan lui dit, « Sachez, monsieur, que je descends d'eux. » Et Voltaire lui dit, « Vous descendez, moi je monte. »
Oui, on lui plaît ça aussi. C'est possible, en effet, mais il y a des incertitudes sur ce plan. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que Rohan s'est senti évidemment insulté par ce roturier. Il a levé sa canne, Voltaire a tiré son épée. L'actrice qui était là, Mademoiselle de Couvreur, a jugé opportun de s'évanouir pour calmer la querelle. Et peu de temps après, Rohan décidait à se venger, mais non pas personnellement, parce qu'on ne croise pas le fer, évidemment, avec un bourgeois, à payer des sbires. Le chiffre varie là aussi selon les déclarations, 2, 3, 6. Et un soir que Voltaire soupait chez le duc de Sully, on est venu l'avertir que quelqu'un le demandait dans la rue. Il est donc descendu et il y avait là un fiacre où attendait Rohan. Et là, les sbires lui sont tombés dessus et l'ont bastonné. Voltaire s'est senti profondément humilié.
Oui, il a demandé réparation.
Il a demandé réparation et au fond, il est tombé de haut. Parce qu'au fond, depuis l'adolescence, il fréquente des grands seigneurs, notamment dans la société du Temple. Il a donc fini, dans ce milieu qui était très libre, par se croire peut-être socialement plus que ce qu'il était. Il fut un soir au Temple, dans un souper, où, ébloui par la conversation, la convivialité, il s'était écrié « Sommes-nous tous ici princes ou poètes ?» Ben justement, ce jour-là, il découvrait que ses amis étaient peut-être poètes, mais en tout cas, lui n'était pas prince. Lorsqu'il cherche des appuis pour porter plainte, notamment auprès du duc de Sully, qui est un familier, tous se récusent. Certains peuvent donner tort au chevalier de Rohan, mais en tout cas, il n'est pas question de demander réparation à un Rohan quand on n'est qu'un Arouet, y compris du côté de Louis XV ou de ses amis les plus proches.
Mais est-ce que cette histoire n'est pas fondatrice chez Voltaire dans la mesure où son travail serait, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui explique la position centrale qu'il finira par occuper dans l'univers des lettres, où son travail serait finalement la conquête d'une royauté acquise?
Si, c'est-à-dire qu'il aura évidemment au fil
très sensible d'ailleurs aux lettres de ceux qui, devenus gentilshommes, lui écrivent que désormais ils peuvent le rencontrer.
Oui, mais justement, Voltaire aura très conscience de sa valeur et du fait que son génie et sa célébrité semblent rompre un certain nombre de barrières. Mais vous constatez en lisant sa correspondance que lorsqu'il s'adresse à des gens qu'il ne connaît pas pourtant fort bien, comme le duc de Richelieu par exemple, ben, il pèse tout de même ses mots et ses formules. Et à un certain moment, à l'époque où le frère de Frédéric II est malade, Voltaire répond que le médecin qu'on lui demande est occupé, peut pas s'en rendre à son sujet, et suggère qu'au contraire, le prince Henri de Prusse vienne consulter. Et Frédéric II la trouve très mauvaise, et lui répond « Apprendrez-vous donc enfin sur quel ton il faut m'écrire ?» Donc, il lui sera quand même rappelé de temps en temps qu'il n'est qu'un arouet, qu'il n'est qu'un poète. Et même au temps de la bastonnade, d'ailleurs, il se trouve pas mal de gens pour dire que, en somme, les épaules d'un poète sont faites pour recevoir des coups de bâton, du moins quand on est un grand seigneur. Et c'est ce qui arrivera même à la publication de ses mémoires, où l'on est choqué par le fait que, au rang où il, social où il se trouve, il écrive des mémoires comme s'il était prince, duc ou roi ou grand capitaine. Il y a un problème d'infériorité sociale qui, malgré tout, demeure. Et même s'il reste en rapport pendant toute sa vie avec de grands seigneurs, des ducs, des princes, des rois, une impératrice, malgré tout, le fossé social au XVIIIe siècle demeure sous la courtoisie des mots. Frédéric II l'appelle « mon ami », mais en fait, il ne faudrait tout de même pas que Voltaire se prenne aussi pour l'ami de Frédéric II.
Voilà. Ça n'est pas un blanc-seing, ça reste aussi une formule. Et justement, l'usage qu'il fera de la formule est une façon pour lui de convertir les humiliations en insolence.
Voilà.
Gens d'église, hommes de préjugés, vaniteux imbéciles, commis de ministères, baillis de province, vizirs ambitieux et cruels, militaires bornés, amateurs de massacres, esprits intolérants, voleurs de grands chemins, mais aussi brigands légaux, ce sont tous les ennemis de Voltaire. Il n'y a que des amis de Voltaire au studio 134 de la Maison de Radio France et en particulier Raymond Trousson, son biographe qui signe une excellente biographie du dernier intellectuel heureux. Tiens d'ailleurs, on va voir ce que vaut cette expression à vos yeux, l'expression de Roland Barthes. Raymond Trousson, donc une biographie que vous signez chez Talendier. Que pensez-vous de cette expression de Roland Barthes, Voltaire, comme le dernier intellectuel heureux?
Heureux dans quelle mesure?
Il est certain... Heureux dans la mesure où le bonheur est la meilleure réponse qu'on peut adresser à ses ennemis?
D'une certaine façon, oui, parce qu'au fond, Voltaire dira « En France, il faut être enclume ou marteau. Moi, j'étais né enclume. » Donc, Voltaire est un homme qui s'est fait lui-même et qui a admirablement réussi, d'abord sur le plan de la carrière, c'est le créateur universel de l'épopée à la tragédie, de la comédie à l'histoire, de la poésie philosophique à la science. Il a aussi prodigieusement réussi sur le plan financier. Il est assez amusant d'ailleurs de se rappeler que lorsque son père meurt en 1722, et son fils ayant déjà fait quelques bêtises, il divise sa fortune en trois parts égales entre Voltaire, son frère et sa sœur, avec une clause. Pour Voltaire, il y aura substitution. C'est-à-dire qu'il ne touche que l'usufruit, et le père déclare dans son testament qu'il ne pourra toucher la somme de l'héritage qu'à 35 ans révolus, à condition qu'il ait fait preuve alors d'une sage gestion de ses biens, et sinon, sa part ira aux enfants de son frère et de sa sœur.
D'où vient cette clause?
Mais elle vient de l'inquiétude du père de Voltaire. Il tient son fils pour une tête folle, un panier percé, Et Voltaire a fait en effet dans sa jeunesse quelques bêtises qui choquent ce bourgeois prudent qui a accumulé patiemment une fortune. Il lui propose de devenir avocat, il lui propose de devenir magistrat. Voltaire, non, je serai littérateur, un point, c'est tout. Et de tout temps, de tels propos, chez un enfant qui veut devenir artiste, soulève la colère du bourgeois, bien entendu. Balzac a connu cette réaction-là, Molière aussi, la plupart des grands hommes. Du reste, Voltaire dira dans sa vie de Molière que la plupart des grands hommes ont dû devenir grands malgré leurs parents. Ce qui n'empêche pas Voltaire, contrairement aux craintes de son
père... Malgré
leurs
parents, dans l'esprit de Voltaire, c'est grâce à eux.
Non, dans la mesure justement où son père était radicalement opposé à l'idée d'une carrière littéraire.
Oui, mais tant d'obstacles étaient également la faveur qui lui permettait d'en avoir le désir.
Oui, peut-être, puis surtout il en avait la vocation, il avait déjà fait ses preuves, il fait de la littérature, il se passionne pour la littérature depuis le collège, il sent en lui bouillonner une force de création à laquelle il veut donner libre voie, bien entendu. Or, le père de Voltaire finalement réagit en père peut-être un peu étroit, peut-être un peu bourgeois, mais finalement en père prudent. Il offre de lui acheter des charges qui auraient pu le mener relativement loin dans la magistrature. Voltaire refuse. Il ne veut qu'un nom qu'il se fera lui-même. Il l'expédie pour essayer de le détourner des milieux qu'il fréquentait. D'abord, il l'envoie en Normandie, puis il l'envoie à Hollande. Et bien sûr, Voltaire, en somme, lui en voudra. Mais somme toute, si on y réfléchit un petit peu, cet homme, ce notaire à Rouen, avait peut-être l'esprit un peu étroit de sa caste, et qui demeura classique d'ailleurs à travers tout le XIXe siècle, bien sûr. Mais finalement, ou bien il se croyait véritablement le père de son fils, et dans ce cas-là, il avait fait ce que fait tout père bourgeois, essayer de le pousser dans une carrière traditionnelle et sûre. Ou bien il savait qu'il n'était pas son père. Et dans ce cas-là, il faut plutôt avouer qu'il mériterait une médaille.
Ou bien le père était un homme du 19e et Voltaire, en avance sur son temps, un homme du 18e, paradoxalement.
Oui, et même carrément un homme du 19e dans ce cas-là, puisque la bohème romantique donnera lieu à pas mal d'exemples de ce genre. Mais Voltaire va au contraire, surtout des craintes de son père, se révéler très vite un homme d'affaires extrêmement avisé. Il ne faut pas oublier que Voltaire, qui en somme part de rien, à la suite de différentes réussites financières, des gains qu'il fait, une loterie, le pelletier des forts, puis des placements dans le commerce avec l'Amérique, avec la barbarie, puis dans les fournitures aux armées, puis dans les prêts viagers qu'il consent à pas mal de grands personnages. Voltaire est, au moment où il meurt, titulaire de plus de 200 000 livres de rente, ce qui fait de lui l'une des 20 personnes les mieux rentées de France. Et il est bien entendu que cette fortune considérable, il ne la doit pas à ses œuvres. Ce n'est pas Victor Hugo, nous ne sommes pas au XIXe siècle. Victor Hugo, lui aussi, part de rien et fera fortune, mais grâce à ses droits d'auteur et à sa prodigieuse création. Voltaire, non. Voltaire, la plupart du temps, d'ailleurs, abandonne le produit des éditions ou des représentations de ses pièces aux acteurs ou à un ami. Ce sont des sommes pour lui dérisoires. En fait, c'est un homme d'affaires. Et on le voit investir des dizaines de milliers de livres à Ferney, par exemple, qu'il va développer à partir d'une bourgade lamentable en une petite ville industrielle prospère.
C'est un des paradoxes de Voltaire, d'ailleurs, hein, qui passe pour une figure de la mondanité parisienne et qui a finalement passé le plus clair de son temps hors de Paris, voire hors de France.
Oui, et ce fut peut-être un bien. Cet exil qui ne sera jamais un véritable exil, puisqu'il n'y a jamais eu d'interdiction formelle, écrite, pour Voltaire de revenir à Paris. Il a eu simplement la connaissance qu'il avait du mauvais vouloir de Louis XV. Il n'était pas question de passer outre, bien sûr. Donc il n'était pas, si l'on peut dire, en exil, même si c'était un exil de réalité. Or, c'est une bonne chose pour lui, parce que, au fond, s'il était resté à Paris, en menant la carrière qu'il y mène jusqu'à 1750, est-ce qu'il n'aurait pas passé sa vie à rester dans la même ligne, à essayer de défendre sa royauté littéraire contre ses rivaux, contre les folliculaires ou les journalistes qui l'attaquaient. Finalement, cet éloignement de Paris lui a aussi permis un formidable ressourcement.
La position de Sirius.
La position de Sirius, l'approfondissement des thèmes qui lui sont familiers, le déploiement très pratique, très pragmatique, celui-là, d'une énergie inépuisable pour transformer ce hameau misérable en une industrie prospère, pour faire, comme il dit, du bien. J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. Et en effet, il a fait énormément de bien à Ferney.
Revenons-en, Raymond Trousson, juste trois lieux communs sur Voltaire, qu'il s'agit peut-être, certainement d'ailleurs, de battre en brèche. Voltaire antisémite, Voltaire bénéficiant du commerce triangulaire, de façon générale, Voltaire négrier.
Ah oui. Bon, l'histoire du Voltaire négrier est une affaire qui a été surtout lancée par un pamphlétaire du XIXe siècle, d'après une lettre qu'il publiait d'ailleurs.
Ce qui est très intéressant, c'est la fortune qu'a connue cette postérité-là.
Oui, mais bon, ça, on va y venir. Bon, c'était Mirecourt qui avait lancé cette lettre qu'il publiait d'ailleurs, mais dont il s'est très vite avéré que c'était un faux. Ça tombait très bien, puisque au XIXe siècle, bien sûr, tout le parti catholique, jusqu'en 1878 et même plus tard, bien sûr, est fondamentalement hostile à Voltaire. Et nombre de biographies qui paraissent au XIXe siècle, celle de Le Pen, celle de Mazure, celle de Ménard, etc., cherchent tous les vices possibles à Voltaire pour le montrer comme un suppôt de Satan. Alors, cette affaire de traite des nègres a évidemment embarrassé, disons, les partisans de Voltaire. Or, ce qui reste en tout cas entendu, aucune trace n'existe d'un investissement de Voltaire dans la traite des Noirs. Ce qui est vrai, c'est qu'il a placé des fonds dans la Compagnie des Indes, dont une des activités concernait la traite. C'est exact. Mais rien ne prouve que Voltaire y ait jamais participé. Et c'est, je pense, en fait très peu probable, compte tenu de la nature et des idées de Voltaire. La deuxième question que vous me posiez...
Voltaire antisémite, après tout. C'est... On va revenir hein, d'ailleurs sur l'article juif de son dictionnaire philosophique et puis de mille occurrences de son existence. Mais qu'en est-il ?
Ben, là aussi, bien sûr, on en a beaucoup discuté. Encore une fois, beaucoup de choses remontent au XIXe siècle et à cette hostilité forcenée, rabique, inimaginable que le parti dévot avouait à Voltaire. On l'a donc accusé de tous les péchés possibles et, bien sûr, d'un antisémitisme virulent. Ça a été même beaucoup plus loin, puisqu'en 1942, un certain Labroux publie en France un livre intitulé « Voltaire anti-juif ». Ça tombe évidemment très bien, puisqu'on vient apporter la caution de Voltaire à l'occupation. Or, de quoi s'agit-il dans ce « Voltaire anti-juif » Il s'agit d'un copier-coller. C'est-à-dire, c'est une série de citations de Voltaire, mais tronquées, extraites de leur contexte, déformées. C'est au fond un ouvrage de propagande. Alors, qu'en est-il vraiment de son antisémitisme ? D'abord, il faut éviter de commettre un anachronisme.
Anti-judaïsme, antisémitisme.
Voilà. Il n'y a pas chez Voltaire d'antisémitisme de type racial tel que nous le connaissons, hélas, banalement, aujourd'hui.
Ça n'est pas non plus le peuple déicide qui l'indispose.
Ce n'est pas non plus le peuple déicide, puisqu'il considère d'ailleurs que Jésus est né, a vécu et est mort en juif.
Ça n'est pas non plus le peuple des usuriers.
Si, ça peut lui arriver. Il existe chez Voltaire quelques passages, en effet, où il attribue aux Juifs les défauts traditionnels, la cupidité, la rapacité, la malhonnêteté en affaires, etc., etc.
Le fait de disposer du temps des autres.
Oui, mais il y a aussi des passages où il dit que, somme toute, il était beaucoup plus souvent roulé par des chrétiens que par des Juifs. Donc cet antisémitisme moderne, si vous voulez, celui de Drummond, celui de Céline au XXe siècle, il n'y en a guère de traces chez Voltaire. En revanche, il y a, oui, un anti-judaïsme ou un anti-hébraïsme particulièrement prononcé.
C'est l'idée d'élection qui lui est insupportable.
D'abord, c'est l'idée d'élection. Le fait, dit-il, que Dieu ait choisi une misérable peuplade arabe pour en faire le peuple élu. Bon. Ensuite, il y a le fait que les Juifs, en raison justement aussi de toute une série de prescriptions qui cerne la judaïté et lui donne son caractère essentiel, se considère comme le peuple élu, et aussi qu'il est l'inventeur, dans notre monde et dans leur héritage, il est l'inventeur d'un monothéisme intransigeant, exclusif, intolérant. Ce qu'il déteste dans les Juifs, mais entendons-nous bien, dans les Juifs du passé, dans les Juifs de la Bible, pas dans les Juifs du présent, ce sont précisément ces inventeurs d'une religion intolérante et exclusive dont le christianisme va sortir et dont il est l'héritier. Et ce qui montre bien que, au fond, Il n'a rien contre les Juifs modernes. C'est ce qui se passe en 1761, lorsqu'à la suite d'un attentat contre le roi du Portugal, on organise un auto-da-fé où l'on brûle certains jésuites qui ont été accusés de complicité, dont le père Malagrida, qui est un homme qui avait évangélisé le Brésil pendant 30 ans et qui avait alors 75 ans. Et l'on brûle, pour faire bonne mesure et par la même occasion, un ou deux autres religieux, une série, une cohorte de musulmans. Et Voltaire, dans le sermon du rabbin Akib, où il fait parler un rabbin, explique qu'en effet, cette persécution, non seulement est atroce, mais qu'elle est absurde. Puisque de toute façon, explique le rabbin, aux chrétiens, vous descendez de nous. Et Voltaire insiste, bien sûr, sur le fait que les Juifs ne doivent en aucun cas être persécutés. Donc, s'il y a chez lui des traces d'antisémitisme banal, si j'ose dire, elles sont minimes, et il parle rarement des Juifs contemporains. Le vrai problème à l'époque, d'ailleurs, n'étant pas les Juifs, mais les protestants. En revanche, c'est vrai, il y a un anti-judaïsme quasiment forcené.
On va parler de son rapport au protestantisme quand on évoquera l'ingénu, notamment. En ce qui concerne, pour rester un instant sur cette question-là, Nietzsche, qui avait pour une admiration frénétique pour Voltaire, comme pour Montaigne, comme pour Pascal, comme pour les moralistes français en général, enfin Nietzsche, qui se vivait lui-même d'ailleurs comme un moraliste français, d'une certaine façon, et l'héritier, en un sens, des Lumières entendues, au sens le plus voltairien du terme, Nietzsche lui-même ne cesse, c'est un autre malentendu qui cette fois-ci ne concerne plus Voltaire mais Nietzsche, c'est-à-dire d'une certaine manière son successeur, ne cesse de fulminer contre l'idée, en somme ce qu'il reproche aux Juifs, c'est d'avoir là encore engendré le christianisme. Le reproche qu'il formule à l'encontre du monothéisme inclut forcément le judaïsme comme, j'allais dire, la mère nourricière de tout ce qui ensuite se déduira de la religion et du sentiment qu'il faut vivre sous la tutelle des valeurs absolues.
Oui, c'est exactement ça.
C'est la même affaire.
C'est la même attitude.
C'est la même affaire. Revenons-en à Voltaire et à deux ou trois, là encore, lieux communs qui sont également des tensions internes à sa formation. D'abord, sa formation est classique. Hein. C'est ce qui l'éloigne de Diderot, d'ailleurs, qui avait aussi, d'ailleurs, une formation classique, mais peut-être moins que Voltaire, la révérence dans le style à l'endroit de ses aînés. Et pourtant, Voltaire lui-même parle du respect qu'on doit à ses aînés et d'un respect qui ne doit jamais devenir une dévotion.
Oui, c'est exact. Mais justement, vous évoquez très logiquement Diderot. D'abord, il y a tout de même, disons, une petite question de génération. Diderot est né en 1713, Voltaire en 1694. Il y a 19 ans entre eux. Donc, leur formation n'est pas nécessairement la même, même si, peut-être, Diderot a lui aussi fait ses études chez les jésuites du collège Louis-le-Grand. Voltaire reçoit une formation strictement classique, ne fût-ce qu'en raison des circonstances chronologiques. Les hommes qu'il a pour professeurs au collège sont des hommes qui ont, disons, entre 40 et 60 ans. Ce sont donc des hommes qui ont été formés fondamentalement dans le siècle de Louis XIV et qui transmettent une perspective, une esthétique, un goût, qui sont ceux du grand siècle. Et bien sûr, pour Voltaire, le grand siècle, ce sera toujours celui de Louis XIV, alors que sur le plan esthétique, sur le plan littéraire, le XVIIIe siècle lui apparaîtra de plus en plus comme un siècle de décadence. Ce qui est assez curieux, bien entendu, quand on pense qu'il est en même temps le chantre du progrès de l'esprit humain. Mais autant le XVIIIe a progressé sur le plan philosophique, autant lui semble qu'il a régressé sur le plan de la qualité littéraire. C'est bien pourquoi, plus il vieillira, ce qui est un phénomène normal d'ailleurs, plus Voltaire se sentira opposé à certaines formules qui détruisent l'esthétique classique, comme la comédie larmoyante de Nivelle de la Chaussée, comme le drame bourgeois de Diderot.
Oui.
C'est pourquoi il se fera de plus en plus hostile à Shakespeare, alors que c'est lui qui le révèle aux Français en 1734 dans les Lettres philosophiques, où il dit, bon, d'accord, ce Shakespeare c'est un sauvage, mais où il y a des étincelles de génie, où on peut trouver certaines choses. En 1776, donc deux ans avant sa mort, dans sa lettre à l'Académie, et c'est une sortie d'une incroyable violence contre Shakespeare, et Voltaire supplie la comédie française de préserver la grande tragédie classique.
Oui, plutôt Racine que Shakespeare, hein, à tous égards.
Oui, mais c'est ce qui montre aussi justement que Voltaire l'homme d'un certain passé dans sa formation esthétique. En effet, dans son esprit, Racine l'emporte sur Shakespeare, bien entendu, la question ne se pose même pas. C'est un sauvage ivre. Bon. Pourquoi ?
Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Allez-y.
Non, il y a de ça.
Il y a de cela.
Chez nous, c'est un synonyme de grandeur et de nouveauté. Il y a une certaine sauvagerie chez Shakespeare, une certaine brutalité, fût-ce même une certaine grossièreté, qui s'oppose en tout à l'esthétique classique. Par exemple, explique Voltaire, comment est-il possible, comme il le fait dans Jules César, de mettre la foule des saphiers et des cordeliers sur la scène ? Comment est-il possible dans Hamlet qu'on ait les propos des fossoyeurs et des chansons ?
Absolument.
C'est contre toutes les bienséances. Et Voltaire y reste évidemment fidèle, même s'il souhaite, disons, certaines réformes et aménagements dans la tragédie française. Mais ce qui est clair, c'est qu'il préfère Racine à Corneille, de la même manière d'ailleurs qu'il est incapable d'apprécier véritablement la tragédie grecque. Il reste prisonnier des critères de son temps. Et lorsqu'il parle des Grecs, c'est la plupart du temps comme ses contemporains. Les Grecs sont les inventeurs de la tragédie. Oui, seulement ils ne connaissaient pas les bienséances. Autrement dit, aux yeux de Voltaire, il n'est pas le seul. Les Grecs sont les grands inventeurs dont le seul tort est de ne pas avoir inventé la tragédie française. Et on ne peut donc pas les mettre telles quelles sur scène. Ce n'est pas possible. L'inverse se produira justement au moment de la réaction romantique. Car ce qui sera le travail des romantiques, et plus particulièrement de Victor Hugo, ce sera de substituer Corneille à Racine. La transformation est évidente. On s'arrache à cette esthétique classique extrêmement contraignante, admirable bien sûr, et dont Racine représente en effet le sommet, pour revenir à un dramaturge qui est plutôt celui de l'héroïsme, d'une plus grande liberté.
Ça, etc. Permet de penser vraiment la différence entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Oui. D'un côté, Racine plutôt que Shakespeare, de l'autre côté, la bataille d'Hernani.
Exactement. Exactement. Et bien sûr, c'est aussi le romantisme qui va acclamer Shakespeare, bien entendu. Shakespeare est l'un des grands hommes du romantisme. Alors que Voltaire, lorsqu'il voit peu à peu Shakespeare pénétrer de plus en plus en France, lorsqu'il voit Ducis en faire des adaptations, lorsqu'il voit certains procédés shakespeariens être introduits dans les tragédies de ses jeunes contemporains, il est horrifié. On est en train de massacrer la tragédie française.
Et en même temps, Raymond Trousson, dans toutes les œuvres de Voltaire, il mêle le sublime au baroque, il mêle le sublime au grotesque. L'esthétique, dans les contes voltairiens notamment, est une esthétique, j'allais dire, baroque, est une esthétique du mélange. Et puis même Hamlet, d'ailleurs. Les propos du fossoyeur, quand il parle de la peau d'un tanneur qui dure plus longtemps, le cadavre du tanneur qui dure plus longtemps, c'est presque de l'ironie voltairienne, tout cela.
Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas dissibles sur scène. N'oubliez pas que dans la tragédie classique, par exemple, ça peut nous sembler un petit peu bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Il était permis de montrer un suicide, mais pas un meurtre. C'est pourquoi on tue toujours dans les coulisses. Il y a là un ensemble de règles de bienséance qui sont évidemment très éloignées de Shakespeare. En 1776, c'est d'Alembert qui lira à l'Académie la lettre de Voltaire à l'Académie, et il insiste. Laissez entendre, dit-il, que Voltaire utilise certains mots comme putain ou bordel, ne les prononcez pas bien sûr parce que c'est inimaginable à l'Académie française, mais laissez entendre de quoi il s'agit pour qu'on voit bien sa vulgarité. C'est un homme, aucune femme ne peut assister à une tragédie ou surtout à une comédie de Shakespeare, c'est pas possible. Donc il y a là un respect d'une certaine bienséance de la tragédie classique, d'une certaine conception de l'effet tragique qui peut aller bien sûr jusqu'à la terreur, selon les préceptes des Grecs bien entendu, mais qui ne peut pas aller jusqu'à une certaine outrance qui est destructrice du bon goût.
Là encore, Nietzsche est l'héritier de Voltaire, qui oui. respectait les classiques de façon frénétique.
Bien sûr, par sa formation même, c'est un classique.
Par sa formation même, mais également par son goût. Le goût le plus noble est celui qui rétablit le sens de la hiérarchie et qui fait valoir justement, c'est toujours au profit du classicisme que Nietzsche vante l'art comme une physiologie. Et on retrouve évidemment là quelque chose qui est de l'ordre d'un héritage voltairien. Mais pour en revenir...
Mais si oui. je puis vous interrompre un instant, vous venez de citer les contes où il y a en effet un mélange des tons. Oui, bien sûr, mais là aussi, il faut tenir compte des canons classiques. Les contes ne sont nullement, pour Voltaire, des œuvres importantes. Il y a une hiérarchie des
il
genres.
Il parle de fadaise, hein. on va y revenir,
bien sûr,
on va en parler cette semaine. Oui.
Pour des raisons qui ne sont pas uniquement esthétiques, il parlera de Candide comme d'une couillonnerie d'ailleurs. Mais il y a pour Voltaire le sommet qui est la poésie épique, puis la tragédie, etc. Il y a une hiérarchie des genres qu'il faut respecter. Et Voltaire, comme beaucoup de ses contemporains d'ailleurs, n'a aucune estime pour le roman, qui est un genre vulgaire, bon pour les femmes de chambre. C'est pourquoi ces contes lui permettent évidemment une bien plus grande liberté, parce que c'est un genre sans importance, c'est un genre sans dignité. On y fait ce qu'on veut. Alors, le paradoxe est évidemment que pour nous, le meilleur Voltaire est certainement dans ses contes et pas dans ses tragédies. Mais ça, c'est l'évolution historique, c'est l'évolution du goût, etc. Mais pour lui, c'est ça. Le conte, c'est la liberté.
Mais ce qui est étonnant également, c'est qu'on fait de Voltaire un homme du progrès, alors que le Voltaire dont vous nous parlez ressemble à s'y méprendre à un anti-moderne, à ce qu'Antoine Compagnon appellerait un anti-moderne.
Oui, c'est exact, mais sur le plan de l'esthétique, pas sur le plan des idées. Encore que, bien entendu, pour des raisons qui se comprennent, à partir d'un certain moment, Voltaire vieillissant paraît, disons, à la gauche de l'aile de lumière, de plus en plus retardataire. À l'époque où triomphent les athées et les matérialistes, Voltaire, avec son dieu horloger, son déisme, apparaît comme un homme dépassé. C'est l'homme d'un autre temps. On est au-delà de ce combat. Ça, c'est évidemment le phénomène, disons, qui est lié d'abord à une longue existence, 84 ans, ce qui est très long, bien sûr, à l'époque.
84 ans et 9 mois.
Et 9 mois, en effet, et qui lui permet, évidemment, de durer très longtemps, mais avec ses propres idées, alors que les idées, par ailleurs, ont marché, et que les hommes de l'avenir, c'est évidemment plutôt Diderot que Voltaire.
Reprendriez-vous juste encore une question, Raymond Trousson, pour aujourd'hui. Reprendriez-vous, puisque Voltaire est l'inventeur de l'acception la plus large qu'on donne au mot de siècle, dont il ne fait pas seulement une définition temporelle, le siècle n'est pas ce qui commence en 1900 pour s'achever en 2000, non, le siècle c'est un ensemble qui va au-delà justement d'une période qui désigne des structures, des habitudes, des usages. Finalement, quand on parle du siècle de Sartre, on désigne non pas seulement le temps de sa vie, mais également toute une période, toute une époque. Voltaire est celui qui fait cela avec le siècle de Louis XIV. Est-ce qu'on peut parler du siècle de Voltaire en reprenant à ce moment-là la définition nouvelle qu'il donne au terme de siècle?
Oui, absolument. D'ailleurs, certains, comme Madame du Deffand, par exemple, parlent déjà, le lui écrit d'ailleurs, notre siècle sera appelé le siècle de Voltaire. Bon, et non pas le siècle de Louis XV. C'est que Voltaire se fait une conception neuve de l'histoire, qui n'est plus une histoire vue de manière d'abord strictement chronologique et séculaire, ni une histoire vue à la manière de Bossuet, qui l'imprègne de providentialisme et qui montre que l'histoire doit accomplir le dessein de Dieu. Lui, d'abord, laïcise l'histoire, bien sûr, et ensuite, il crée, plutôt que la notion de siècle, celle des âges, comme vous disiez. Et il y a quatre grands âges. Il y a l'époque de Périclès, il y a la grande époque romaine, il y a les Médicis à la Renaissance, et il y a le siècle de Louis XIV. Et en effet, il entend alors siècle beaucoup moins peut-être comme une période strictement chronologique que comme un état d'esprit, un certain accomplissement de la civilisation, du progrès, de l'art, de la tragédie, les grands accomplissements de Louis XIV, qu'il critique d'ailleurs sur d'autres plans par ailleurs, mais enfin, qui sont l'œuvre de ce grand souverain qui marque son temps de la même manière que Périclès avait pu marquer le sien. C'est donc une nouvelle conception de l'histoire divisée en âges, beaucoup plus qu'en siècles stricto sensu.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
Merci Raymond Trousson, c'est un régal de vous entendre, et d'ailleurs on va vous entendre toute la semaine pour parler de Voltaire. Tout cela ne fait que commencer. Songez que nous n'avons même pas, par exemple, évoqué l'affaire Calas, ni même cité Candide. Nous reparlerons de tout cela et de bien d'autres choses toute cette semaine. Je rappelle Raymond Trousson que vous êtes professeur émérite de l'Université Libre de Bruxelles, membre de l'Académie Royale de Langue et de Littérature Française, et surtout, en l'occurrence, excellent biographe de Voltaire, une biographie parue en 2008 chez Talendier.
Avec un cœur gros comme ça.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire.
Demain, c'est de l'épistolier Voltaire que nous parlerons. Hein. Voltaire est également l'auteur d'à peu près 22 000 lettres. C'est vous qui nous l'apprenez, Raymond Trousson. Et on verra certains de ses relations avec certains de ses destinataires, en particulier Frédéric II, Diderot et évidemment l'inénarrable Rousseau. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. À la technique, aujourd'hui à Paris, au studio 134, c'est Jean-Richard Dufour, le technicien au prénom médiéval, à la réalisation François Connac, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Florence Malfatto, France Culture, 17h50, tout de suite, Albert Jacquard.